nous pouvons prendre dans ta parole ce matin. Père, ta parole est vivante. Encore cette semaine, pendant que j'étudiais ce livre du Cantique des Cantiques, mon âme, Seigneur, était nourrie. Ma vision de l'amour était rafraîchie, Seigneur. Je te bénis, Père, pour tes saintes écritures qui sont tellement riches et tellement belles. Je te prie, Père, de venir nous instruire ce matin. Viens, Père, je te prie, parler à nos cœurs. Viens adresser des choses à travers ce bref survol de ce livre, Seigneur, des choses qui nuisent à notre couple, à nos couples, à notre témoignage, au témoignage de l'Église, Seigneur, qui nuisent à ce beau reflet de ton amour qui est censé être le couple chrétien, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Jean-Luc, est-ce que je pourrais te demander d'aller fermer la porte de la salle de prière des dames, s'il te plaît? Merci. Alors, ça recommence lentement, c'est ça? Tu n'as pas beaucoup d'élèves, toi? Tu vas assister à mon cours? Bon, je pense que les gens n'ont pas repris le beat encore. Hein? OK. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans le Cantique des Cantiques. Nous autres, on ne recommence pas lentement. On y va avec... Yes. Cantique des Cantiques. Oh oui, c'est excellent en plus. C'est excellent. Ça va? OK, alors on est dans le survol de l'Ancien Testament. Leçon 15, le livre du Cantique des Cantiques. On est en train de terminer la portion des livres de sagesse. D'accord? La semaine prochaine, on va commencer les livres prophétiques. Et donc, on aborde ce dernier livre-là ce matin. C'est un livre spécial, n'est-ce pas? C'est un livre spécial parce que c'est toujours, ça suscite toujours de l'interrogation en nous, des questionnements lorsque un lecteur découvre ce livre-là dans la Bible. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Puis surtout si on commence à le lire avec un petit peu d'attention, qu'on comprend un petit peu la poésie, là on se rend compte que oui, ok, qu'est-ce que ça fait là, ce livre-là? Parce que c'est un livre qui est assez explicite, c'est un livre qui parle d'amour. Hein? C'est simple de comprendre le sujet. Ce qui est particulier, c'est de vouloir l'interpréter après ça, puis voir qu'est-ce que nous on doit tirer de ça. Mais c'est un livre qui parle d'amour. Le Cantique des Cantiques, ça nous dit que c'est le chant de tous les chants. C'est le plus beau des chants, dans le fond. Le Cantique des Cantiques, c'est le plus beau chant d'amour qu'un être humain pouvait concevoir. C'est ça le titre qui a été donné à ce livre-là. Le Cantique des Cantiques a suscité toutes sortes de réactions chez les interprètes de la Bible à travers les siècles. D'accord? Vous comprendrez qu'il y a des époques où on parlait peut-être pas de sexualité sur la place publique comme ça se fait aujourd'hui. Et donc, les interprètes se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça exactement? Et donc, il y a eu différentes approches qui ont été adoptées pour pouvoir interpréter le livre. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une balance qui reflète bien l'ensemble des Écritures. On va le voir ensemble. Mais c'est ça, ça a suscité toutes sortes de réactions qui a amené différentes approches pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qu'on devait tirer de ce livre-là, qu'est-ce que le peuple de Dieu devait tirer de ce livre-là. Est-ce qu'il y en a qui ont été agréablement surpris lorsque vous avez découvert ce livre-là dans la Bible? Est-ce qu'il y en a qui se sont dit, ah, quand même, tu sais, Dieu ose, non? Peut-être moi c'est mon background en poésie et tout ça, là, mais moi j'aimais ça, je dis waouh. Dieu est vraiment, il est toujours surprenant, il est toujours extraordinaire. Mais je sais que plusieurs vont dire, OK, d'abord, il y en a plusieurs pour qui la poésie, c'est quelque chose d'hermétique. Ils n'arrivent pas à comprendre la poésie. Et donc, dès qu'ils tombent sur un terrain très, très poétique, dans un texte très poétique, ils sont réfractaires à ça, ça les amène à se fermer. Et celui-là, de tous les textes poétiques de la Bible, c'est celui qui l'est le plus. Où vraiment, on va le plus loin dans les images poétiques, puis on reste là. On n'est pas dans un texte prophétique ou des trucs comme ça. Donc, même s'il y a de la poésie dans les psaumes, même s'il y a de la poésie dans l'Ecclésiaste, il y a des images très, très poétiques dans l'Ecclésiaste lorsqu'on parle de lorsque l'homme vieillit, tout ça. C'est vraiment dans le Cantique des Cantiques qu'on en trouve davantage. Alors, certains vont être réfractaires aussi pour cette raison-là. Le Cantique des Cantiques raconte l'histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est très graphique, donc c'est vraiment toute leur histoire d'amour, c'est une histoire d'amour passionnelle, c'est clair. C'est un texte à caractère érotique à certains égards. Il n'y a pas d'enfant, là, je me permets de dire les vrais mots, d'accord? Mais c'est clair, là, ce serait faux de ne pas faire face à ça. Il y a vraiment des allusions sexuelles très évidentes dans le Cantique des Cantiques. Et donc, c'est un texte qui nous parle d'amour. C'est un texte qui nous parle d'amour tel que Dieu le conçoit pour l'homme et la femme. Puis c'est ça qu'on trouve essentiellement dans le Cantique des Cantiques. C'est intéressant pour nous, pour notre époque, de voir ça, alors que dans notre époque, notre société est littéralement obsédée par la sexualité. C'est une obsession, c'est là, c'est partout. C'est intéressant pour nous de voir que justement, bien avant la révolution sexuelle, ces questions-là étaient adressées dans les Écritures sans gêne, sans honte, sans faux-semblant. Les choses étaient dites. Et de belle manière, avec quelque chose qui est inspirant, qui nous conduit vers le modèle que Dieu a pour la sexualité. J'ai mentionné pour le titre, si vous regardez au bas de la note, là, pour ceux qui n'auraient pas pris les feuilles, elles sont sur la table à l'arrière. Vous avez peut-être pas reçu le courriel. D'accord? Je m'excuse, je fais une parenthèse. Ceux qui sont sur la liste d'envoi, vous n'avez pas reçu le courriel. Personne n'a reçu. Il y a un petit problème. On est en train de vérifier ça. On s'en est rendu compte hier parce que ça avait été envoyé vendredi. Alors, j'ai mentionné pour le titre. Le titre Cantique des Cantiques nous vient tout simplement de cette image que c'est le chant d'amour par excellence. Avant d'aller plus loin, quelques personnes qui oseraient se mouiller puis nous dire qu'est-ce qu'on est censé tirer de ce livre-là. Après ça, on va aller ensemble voir ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent se mouiller, oser se prononcer. Qu'est-ce qu'on est censé tirer du Cantique des Cantiques? Bessie a la main levée. Non, c'était pas pour ça. OK. Oui, David. OK, donc c'est d'être instruit afin qu'on puisse faire nos délices de la femme de notre jeunesse, puis vraiment apprendre sur l'amour. OK, d'autres choses? D'autres... qu'est-ce qu'on est censé tirer de ce livre-là? Est-ce qu'il y en a qui ont été enseignés en disant, bon, ben ça nous enseigne sur Dieu et son peuple? Vas-y, Stéphane. OK. Alors, si on le prend d'une manière allégorique, ce texte-là, bien, on pourrait y voir là-dedans la relation entre Dieu et son peuple, une relation d'amour, d'accord? Et on va voir ensemble comment prendre cet aspect-là, cet élément-là, dans quelle mesure c'est là ou ce n'est pas là dans le texte. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous passent par la tête? Vas-y. Pas de problème. OK. Ah, tu vois, je savais pas ça. Dans tout ce que je l'ai lu, je n'ai pas remarqué ça. Stéphane nous dit qu'il lisait le Cantique des Cantiques pendant la Pâque. OK, OK. Ah, excellent, excellent. Tu vois, je n'étais pas au courant dans ce que j'ai lu, je n'avais pas vu ça. Oui, Gérard. Oui. Mm-hmm. Mais la relation de Dieu avec son peuple. OK, fait que ce que tu dis dans le fond, c'est que ce qui expliquerait peut-être la présence de ce livre-là dans les Écritures, c'est que ça décrit comment Dieu aime son peuple aussi. C'est ça? OK? OK? Intéressant. Intéressant. Je vais vous donner le thème que moi je vois dans le livre, puis c'est la majorité, 99% des interprètes aujourd'hui s'entendent sur ça, et ça vous donne la direction au niveau de l'interprétation qui est adoptée généralement aujourd'hui, d'accord? Le thème du livre des Cantiques est « L'homme et la femme sont appelés à glorifier Dieu dans les liens du mariage en développant une intimité profonde qui représente l'amour de Dieu pour son peuple », d'accord? Et vous avez à peu près tout de résumé là. Et donc, on va voir ensemble les différentes méthodes d'interprétation, mais pour tout de suite, je vous le présente comme ça. Comment est-ce qu'on résumerait le thème du livre des Cantiques, du Cantique des Cantiques? L'homme et la femme sont appelés à glorifier Dieu dans les liens du mariage en développant une intimité profonde qui représente l'amour de Dieu pour son peuple. Date de rédaction, et on le situe, on l'attribue généralement à Salomon, puisqu'il s'introduit lui-même le livre comme ça. Alors, on parle d'environ 930 avant Jésus-Christ, d'accord? Salomon est mentionné au verset 1. Si on parle d'une structure du livre, ça, c'est pas mal plus compliqué. La vraie difficulté dans le livre du Cantique des Cantiques, savez-vous, c'est quoi? C'est d'avoir une structure claire, d'accord? Mon impression à moi, c'est qu'on a un collage de quelques poèmes. D'accord? Ça, c'est mon impression. Donc, c'est pas un poème, un chant qui a été écrit en un seul mouvement, mais que ça a été travaillé sur quelques années. Et si effectivement, c'est Salomon qui a fait ça, mais Salomon a travaillé ces trucs-là, puis il les a mis ensemble. C'est mon impression. C'est difficile d'avoir une structure simple parce que, à un moment donné, tu vois comme, il y a plus que deux personnages principaux à l'intérieur du Cantique des Cantiques. Et ça, vous allez le voir si vous lisez des introductions dans vos Bibles. Là, dépendamment des introductions, ils vont présenter ça. Alors, structure du livre, l'affection mutuelle des amoureux. Là, je suis au point 5 dans mes notes à la page 2. L'admiration mutuelle et la séparation. Le mariage des amoureux. La réponse mutuelle et le renouvellement de l'amour. Et l'amour scellé par l'alliance. D'accord? Je vous dirais que la manière la plus profitable de lire le Cantique des Cantiques, c'est de le prendre juste section par section puis aller tirer des principes qui sont là plutôt que dans son récit global. Puisque c'est un texte poétique, la trame narrative est vraiment difficile à discerner tout le long. Quand je parle de trame narrative, je parle de l'histoire, là, comment mon histoire se développe, mon fil conducteur avec un récit, puis là, je suis en train de franchir mes étapes. C'est vraiment pas évident dans le Cantique des Cantiques. L'accent est beaucoup plus sur la poésie, puis les états d'âme, puis la réponse au moment où il y a quelque chose qui est en train de se produire. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Ça va? Ouais? Non? OK. C'est beau. Alors, méthode d'interprétation. Méthode d'interprétation. Comme on l'a mentionné à travers l'histoire, souvent les interprètes ont approché ce texte-là de manière allégorique. D'accord? Quelqu'un qui veut nous résumer, c'est quoi une allégorie? Je sais que plusieurs le savent, là. Quelqu'un qui voudrait juste nous résumer, c'est quoi une allégorie? Lorsqu'on parle d'allégorie. On ne parle pas du char à la Saint-Jean-Baptiste, là. Mais quoi qu'il y ait un lien, par exemple? Mais c'est quoi une allégorie? À part Stéphane? Vous voyez, elle a levé sa main, là. Il y en a d'autres qui savent c'est quoi une allégorie ici. Come on. Qui sait c'est quoi une allégorie? Avant que je vous pointe du doigt. Oui, David. OK. OK, donc ce serait une histoire parallèle qui serait un peu cachée dans le texte. Puis la différence, c'est important, la différence que tu fais entre le proverbe, un proverbe et une allégorie, c'est que dans un proverbe, dans une parabole, je m'excuse, lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament, on va adresser ça, dans une parabole, bien, il y a une vérité centrale. Et puis on n'essaie pas d'interpréter tous les détails de la parabole. C'est l'erreur allégorique que les interprètes ont faite souvent, c'est qu'ils abordaient une parabole comme si c'était une allégorie, puis ils donnaient un sens à chaque détail. Mais dans une allégorie, on va pouvoir aller jusque-là. Il faut savoir que je suis dans une allégorie si c'en est une. Parce qu'autrement, je peux faire dire n'importe quoi au texte si ce n'en est pas une. D'accord? Oui, Stéphane. Effectivement. Effectivement. Il y a certaines paraboles qui le sont allégoriques. Elles sont très rares. Mais il faut voir c'est quoi l'intention de l'auteur, comment est-ce que lui-même, c'est quoi les pistes d'interprétation qu'il nous donne lorsqu'il l'explique à ses auditeurs. Puis là, je dis, OK, il veut que j'aille plus loin dans les détails. Mais autrement, si je vais trop loin moi-même, bien là, je peux faire dire n'importe quoi. Là. Vous avez tous entendu l'histoire de c'est quoi donc? Attendez un petit peu. C'est avec la drachme, c'est ça. C'est bon, l'histoire du bon samaritain qui est interprétée de manière allégorique. Puis chaque détail, même le montant, les pennies qui sont déposés, l'argent qui est déposé, représente quelque chose aussi, d'accord? C'est ça qu'on veut dire lorsqu'on parle de prendre un texte puis d'y voir une allégorie. Puis là, on peut y lire un petit peu n'importe quoi. À travers les siècles, souvent... Je vous dirais avant le 18e siècle, d'accord? Avant le 18e siècle, souvent, le Cantique des Cantiques a été approché fondamentalement avec un regard allégorique. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à accepter ce texte-là. Ça, c'est, j'interprète, je juge qu'est-ce qui a amené les interprètes à prendre cette position-là. Mais on n'était probablement pas prêt à accepter ce texte-là dans son sens littéral. De quoi ça parle, d'accord? Et devant ça, les interprètes se sont dit, non, je ne vais pas prêcher ça samedi prochain au sabbat, d'accord? Alors, on y a trouvé une allégorie qui nous parle de l'amour de Dieu pour son peuple. On va revenir sur cette notion-là un peu plus loin. Est-ce qu'il y a dans ce texte-là, dans le Cantique des Cantiques, des instructions ou des allusions qui nous parleraient justement de l'amour de Dieu pour son peuple et de l'amour que le peuple de Dieu doit avoir à l'égard de Dieu. Est-ce que ça, c'est là dans le texte, oui ou non? J'y viens un petit peu plus loin, d'accord? Mais historiquement, les interprètes approchaient le texte comme ça. Et donc, ce qu'ils voyaient là-dedans, essentiellement, c'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple, puis ils essayaient de tirer des leçons à travers ça, d'accord? C'est probablement dû à un malaise avec une approche littérale au texte. Oui, Suzy. Ben, ça c'est l'énigme, d'accord? En fait, la difficulté, la question de Suzy, c'est laquelle des femmes? Pour laquelle des femmes est-ce que Salomon a été aussi épris pour en vouloir juste une, puisqu'il y en a eu tellement? Mais c'est ça la difficulté avec Salomon. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'Ecclésiaste, d'accord? La difficulté qu'on a avec Salomon, c'est il fut sage et ne le fut plus, d'accord? Donc, à quel moment il a écrit des choses aussi sages avec le genre de vie qu'il a mené? On a le même problème lorsque tu lis l'Ecclésiaste, d'accord? Parce que les indices qu'on a dans les Écritures de la fin de la vie de Salomon nous indiquent pas qu'il s'est vraiment repenti. Si je dois prendre l'Ecclésiaste, admettons, pour tirer des conclusions sur la fin de la vie de Salomon, ben j'ai bon espoir, il y a quelque chose qui se passe à la fin, tu sais. Mais historiquement, j'ai pas ces traces-là dans l'histoire de sa vie, dans les textes bibliques. Donc, sa vie semble pas avoir terminé très, très bien. Donc, à quel moment il écrit l'Ecclésiaste? À quel moment il écrit le Cantique des Cantiques? C'est des questions. Ça reste en suspens, c'est impossible d'y répondre. Cependant, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste cadre très bien avec le personnage qui est dans une quête profonde de sagesse. D'accord? Alors, par exemple, est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas un croyant, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, ne pourrait pas vivre un amour aussi passionnel que celui-là? C'est indéniable que oui, c'est possible de le vivre, d'accord? Dieu nous a créés, nous a construits, a priori, pour qu'on vive une relation amoureuse semblable, d'accord? Alors, ça ne prend pas nécessairement l'Esprit de Dieu pour s'engager dans ça. C'est ce qui fait que ça reste quand même... La sexualité puis l'amour, c'est les deux sujets principaux de notre culture, d'accord? Puis l'Esprit de Dieu n'est pas particulièrement présent dans notre culture. Donc, cette idée d'un amour passionnel, c'est présent dans... C'est avec ça que tu vends des films. Sexualité, violence, amour, d'accord? Donc, ça reste là. Et où je veux en venir avec ça, c'est que j'aurais pu voir un grand penseur d'une autre époque écrire un livre comme celui-là aussi, parce qu'il se serait engagé dans une relation amoureuse, puis il aurait trouvé un amour sublime dans ça. Dans cette mesure-là, même si Salomon a déraillé de manière royale, d'accord, il a pu, dans sa poursuite, lorsqu'il dit « j'ai voulu goûter à tout, j'ai voulu toucher à tout », il a touché à l'amour unique aussi. L'histoire ne s'arrête pas là pour Salomon, malheureusement, d'accord? C'est ça. Je vais essayer de revenir là-dessus à la fin. Là, il y a un petit commentaire aussi que je voudrais ajouter. Oui. Oui. Je comprends.
Vous comprenez ce que vous dites? Oui,
oui. Parce que c'est important de dire que si est-ce que oui, ça prêchait beaucoup l'Évangile par toutes sortes d'histoires allégoriques, mais sa réalité était aussi grande que les passages que Jésus nous amène avec ses paraboles. Oui,
OK.
Je comprends ce que tu veux dire, Gérard. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'on a le temps de développer toute cette question-là? Si Dieu enseigne par une allégorie, il n'y a pas nécessairement un sens littéral à prendre au texte, d'accord? Parce que dans une allégorie, je vais raconter une histoire qui parle de quelque chose qui est caché, mais je n'ai pas nécessairement de leçon première à donner ici, d'accord? C'est ce qui va m'amener à dire, moi, personnellement, puis la majorité des interprètes, que le Cantique des Cantiques n'est pas une allégorie, pour de vrai. C'est quelque chose d'autre qu'une allégorie qui pointe, là, je le dis, qui pointe vraiment vers l'amour de Dieu pour son peuple, qui pointe vraiment vers l'amour de Christ et l'Église. C'est vrai que ça pointe vers ça, mais ce n'est pas, selon moi, une allégorie. Si c'était une allégorie, je devrais aller interpréter beaucoup, beaucoup d'éléments de détail dedans, d'accord? Si ça avait été conçu pour être une allégorie. C'est ça. Donc, si je parle, par exemple, d'une parabole, dans une parabole, je vais avoir une histoire qui tient la route. J'ai une bonne histoire, elle tient la route, c'est intéressant, mais elle veut raconter, elle veut révéler une vérité spirituelle très précise. Si j'ai une allégorie, elle pourrait ne pas tenir la route. Je pourrais finir avec Daniel et le dragon, d'accord? Puis ce serait pas important parce que je suis en train de raconter quelque chose d'autre ailleurs. C'est pas obligé de coller dans la réalité une allégorie. Je peux être dans le surréel. Effectivement, C.S. Lewis s'en sert énormément. D'accord? Alors, lui, il va raconter une histoire que, si vous avez lu, ma fille est en train de lire, c'est un de ses romans fantastiques, là. Les mille visages, quelque chose comme ça. Je veux dire, le récit tient pas la route. C'est du roman fantastique. C'est une allégorie d'un bout à l'autre. D'accord? Fait que ça n'a pas besoin de tenir la route. Ici, j'ai quelque chose qui tient entièrement la route sans avoir une leçon spirituelle. Et c'est pas clair que ce texte-là, je suis censé commencer à chercher plein de détails dedans qui me disent « Ah, tu vois, Dieu a un désir semblable » et tout ça. J'ai pas de détails qui me disent ça. Je vais plutôt vous dire qu'il pointe vers. Il annonce un amour plus grand encore. D'accord? En tout cas, j'espère que j'ai aidé, là, plus que de m'aider. Alors, c'est ça, deuxième approche d'interprétation, évidemment. D'autres y ont vu une histoire d'amour de façon strictement littérale, en sorte qu'il décrit l'amour de Salomon pour son épouse. La mention de certains détails assez explicites sur leur relation nous donne de bonnes raisons de croire que c'est la façon de comprendre le Cantique des Cantiques. Et la question qui reste après, une fois qu'on dit, ce texte-là, c'est un texte d'amour. Point. Puis, on devrait pas rougir devant un texte comme celui-là. Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon, donc la sexualité est bonne, l'amour intime entre un homme et une femme, c'est bon. Une fois que j'ai pris ça, la question qui me reste à me poser après, c'est est-ce que ce texte-là pointe quand même vers l'amour de Dieu pour son peuple? D'accord? Je crois que oui, je pense que c'est évident. Exactement. Alors, je crois que c'est évident, pas dans le texte. C'est évident parce que ce texte-là fait partie d'un grand texte qui s'appelle la Bible. D'accord? C'est à la lumière de l'ensemble des Écritures que je vais dire, c'est impossible que le Cantique des Cantiques ne parle pas aussi de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Christ pour son Église. Prochain point, un amour passionné véritable. Ce que ce texte-là nous permet de faire, c'est de se réconcilier avec la vision que Dieu a du mariage, d'accord? Un des grands drames qu'on vit comme croyant à l'égard d'un paquet d'affaires, c'est que le monde, le diable, s'approprie des choses que Dieu a créées par le fait même, parce qu'il se les approprie à penser aux arts, penser aux arts premièrement, d'accord? Je vous donne l'exemple avec les arts. Tout ce que Dieu a créé est bon, et il n'y a absolument rien qui sort des arts, qui ne vient pas à quelque part de la création de Dieu, d'accord? L'être humain n'est pas un vrai créateur. Le vrai créateur, c'est celui qui est parti ex nihilo d'absolument rien puis qui a fait l'univers. Ça, c'est le créateur. L'être humain, c'est pas vraiment un créateur. Lorsqu'un artiste crée, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des nouvelles associations. C'est ça qu'on fait. On réussit à penser à l'extérieur de la boîte, puis on associe des trucs que, sais-tu, je les ai jamais vus associés comme ça ensemble, puis pouf, ça fait beau, ça me provoque, ça crée quelque chose, une émotion, tout ça. C'est ça que font les artistes aujourd'hui. Alors, les artistes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des associations à partir de ce que Dieu a créé. Que ce soit à partir de l'être humain, ses sentiments, sa pensée, que ce soit à partir de la nature, peu importe, d'accord? Donc, l'être humain fait d'autres associations, puis il est en train de faire ça. Donc, à proprement dit, les arts, c'est fantastique. On essaie, en créant comme artiste, de ressembler à notre créateur, qui lui est parti de rien, puis paf! Il a fait un univers extraordinaire. Beau, merveilleux, tout ça. Les arts sont merveilleuses, d'accord? Et qu'est-ce qui fait que les chrétiens, il y a tellement un malaise avec les arts, par rapport aux arts? C'est que le monde, le diable, s'est approprié ça et, bien souvent, a rendu l'art odieux. D'accord? Fait que le chrétien se présente devant quelque chose d'artistique puis il dit, ça aurait pu être beau, mais c'est vicieux. Tu sais, il y a du beau, mais il y a du vice qui est là-dedans aussi. C'est normal. L'être humain, il va avec son cœur puis c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait qu'on prend le beau, on veut exprimer le beau, mais il y a toujours un petit quelque chose de tordu, de vicieux, de wicked là-dedans, d'accord? C'est la même chose avec l'amour. C'est la même chose avec la sexualité. Dieu nous a créés, ça prend pas un cours de biologie de la sexualité 101 pour comprendre que c'est Dieu qui a pensé cette affaire-là, d'accord? C'est là, c'est inscrit, c'est partout. Donc, c'est Dieu qui l'a créé, c'est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et l'amour d'un homme pour une femme, c'est Dieu qui l'a créé. L'amour d'une femme pour un homme, c'est Dieu qui l'a créé. Ce que ce livre-là nous permet de faire, c'est juste d'essayer de se détacher de toutes nos toutes nos craintes, tous nos préjugés, tout ce que la culture nous apporte qui fait que, wow, on se tient loin, nos propres souffrances à nous, dans notre couple. Tu sais, je veux dire, ça ressemble pas à ça, mon couple, Yannick, si tu savais. J'y rêvais, là, mais ça fait 15 ans que je suis marié, puis j'ai vite déchanté, tu sais, cantique des cantiques, là, come on, tu sais. Mais j'ai besoin de ce livre-là. J'ai besoin de ce livre-là pour me dire, oui, mais c'est quand même ça le plan de Dieu, tu sais. C'est quand même ça le design de Dieu, c'est ça l'idée de Dieu, là. Et donc, le cantique des cantiques me permet de me détacher de ce que la culture me projette comme image sur le mariage et la sexualité. Le cantique des cantiques me permet de me détacher de ce que moi-même, mes expériences, mes vices, mes combats, ma relation de couple, tout ça peut avoir créé en moi comme image de l'intimité d'un couple, puis dire non, je reviens au modèle de Dieu quand même. Parce que après tout, si la parole de Dieu nous a été donnée, c'est pour nous donner un standard, pour nous montrer ce que Dieu veut pour nous. D'accord? Et le cantique des cantiques est là pour nous parler de l'amour entre un homme et une femme, tel que Dieu le conçoit, tel que Dieu le voit. D'accord? Donc, Dieu a créé le mariage pour que les époux vivent une intimité telle qu'elle a été décrite dans le cantique des cantiques. Le Nouveau Testament nous apprend que le mariage est une image de l'amour de Christ pour son Église, c'est vrai. Dieu a institué le mariage pour que nous le glorifions pleinement dans notre relation conjugale, même dans nos relations les plus intimes. Tout ce que Dieu a créé à l'origine était bon, et la sexualité dans les liens du mariage est une façon de glorifier Dieu. C'est parfois difficile à saisir, mais c'est la réalité. Et si c'est difficile à saisir, c'est à cause de nos expériences. C'est à cause de comment on voit la sexualité, ce qu'on expérimente dans le mariage, tout ça. C'est parce qu'on est pécheur, puis on va pervertir des choses bonnes que Dieu a créées. Le cantique des cantiques est là fondamentalement pour nous ramener là, à cette vérité-là. Oui, Wemba. J'ai manqué ta dernière phrase. Dans la Bible, on parle souvent de... L'institution du mariage? Oui, je comprends. Oui, c'est ça. La nuance est là. La nuance est là. Dans les Écritures, puis en fait, la Bible prescrit très, très peu de choses sur la cérémonie du mariage. Il n'y a presque pas de prescription. D'accord? Pourquoi c'est pas papa qui marie son fils à sa bru? Pourquoi est-ce que ça prend le pasteur? Vous n'avez pas de prescription dans les Écritures. C'est très, très culturel, cet aspect-là. Le mariage est institué quand Adam, après sa période de sevrage, voit cette belle qui arrive devant lui. Et Dieu lui dit, voici, je te donne une épouse, je te donne un époux, vous allez être ensemble. Le mariage est institué là. Tous les théologiens le voient là, c'est clair, ça commence là. Et c'est clair que c'était dans le dessein de Dieu, c'était un projet de Dieu. Dieu l'a conçu comme ça. Après, je sais pas moi, quelques centaines de jours, Dieu a pas dit, je vais t'envoyer un partenaire de pêche, mon homme, tu vas avoir un partenaire pour aller à la pêche, puis il a donné un deuxième gars. Non, il a donné une épouse. Donc Dieu l'a institué là. Après ça, la cérémonie du mariage, il y a presque pas d'informations dans les Écritures. Très, très peu. Certains vont aller voir, par exemple, comment est-ce que les Juifs célébraient le mariage, puis ils vont tirer beaucoup de choses pour nous. Il y a un frère qui a été pasteur ici qui tirait beaucoup de ça. Pour moi, c'est tendancieux un petit peu parce que c'est pas prescrit dans les Écritures. Fait que c'est plus par déduction après qu'on y va. Par exemple, est-ce que lorsqu'un homme va vers une femme, il est automatiquement marié? Les deux sont mariés ensemble. À tout moment donné, ça m'est arrivé à quelques reprises dans mon instant pastoral. J'ai deux jeunes qui ont eu une relation sexuelle ensemble. Puis là, monsieur, il dit, nous autres, on est mariés, tu vois. Non, on va aller voir les Écritures, puis le texte de loi est pas mal clair là-dessus. Si papa il dit que vous n'êtes pas marié, ça peut chauffer pour toi, mon ami. Et donc, c'est pas ça. C'est plus que ça, le mariage. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui se fait devant Dieu et devant les hommes. Donc, par déduction, à partir de différents indices dans les Écritures, on en vient à constituer les éléments fondamentaux de ce que c'est que cette institution-là du mariage. Après ça, la cérémonie, il y a énormément de liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter juste un commentaire là-dessus? Est-ce que je réponds à ta question, Wemba? D'accord. Oui, Gérard.
C'est ça qui est devenu le mariage. Et c'est là qu'est
péché devant Dieu ou l'offense envers ton épouse ou ton épouse envers ton mari, c'est d'aller vers un autre et de briser cette relation-là qui est intime.
Oui, mais tu vois, si je comprends bien Paul, lorsqu'un homme va vers une prostituée, il attaque le mariage, mais parce qu'il va vers une prostituée, il n'est pas marié avec elle. Et donc, ça veut dire que la relation, la consommation, pour prendre des vieux termes, la consommation du mariage, la relation sexuelle, c'est pas ça qui définit qu'il y a un mariage automatiquement. Tu vois? C'est une des constituantes importantes. Mais si j'avais à résumer le mariage à sa plus simple expression, le mariage, c'est lorsque deux individus sont unis devant Dieu et devant les hommes. D'accord? Qu'il y ait eu consommation ou non. D'accord? J'ai un mariage complet qui est là. Fait que, par exemple, le jeu que l'Église catholique a fait, hein, l'Église catholique annulait des mariages parce qu'il n'y avait pas de possibilité de consommation du mariage. Ce jeu-là, je veux dire, ça ne tient pas là, dans les Écritures. D'accord? Parce que, je veux dire, si un homme est marié avec une femme puis il s'en va voir une prostituée, il a commis l'adultère, il y a une possibilité de divorce, on est d'accord. Jésus est très clair là-dessus. Mais jamais dans les Écritures, je vois que, oups, t'es rendu avec deux femmes, mon homme, tu viens d'en marier une autre. Ou celle-là, automatiquement, t'es plus marié avec elle. Elle, t'es mariée parce qu'il y a eu relation sexuelle. Non, il n'y a pas un mariage qui vient d'être fait, là. C'est ton mariage que t'es en train de détruire. Et donc, oui, t'as péché contre ta propre chair parce que t'as vécu une intimité avec une autre personne qui est fondamentale et profonde, qui est vraiment contre nature, parce que tu es allé vers quelqu'un avec qui tu n'étais pas marié. En tout cas, c'est un petit peu compliqué, là. J'espère que je démêle des trucs plus que j'en mêle, là. Ça va? Où étions-nous? On va aller vers les leçons. Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre du cantique? On était dans l'Ecclésiaste? Non. On est rendu plus loin que l'Ecclésiaste. Alors, on va aller ensemble vers les leçons qu'on peut tirer du Cantique des Cantiques. Je pense que c'est l'élément le plus important, d'accord? Parce que c'est ça qu'on va pas chercher. On va facilement même nous se dire, bon, OK, ça me parle de l'amour de Dieu pour nous, puis on reste avec certains malaises à l'égard du texte. Mais il y a vraiment des leçons super importantes à apprendre pour le couple dans ce livre-là. Premièrement, toute la question de jouir de l'intimité physique. D'accord? Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que le monde, le diable, se sont appropriés quelque chose que Dieu a créé que nous, comme chrétiens, on doit renoncer à cela. Au contraire. Alors, ce désir-là, ce désir naturel qu'on a d'être avec une compagne, d'être avec un compagnon, c'est Dieu qui l'a créé et il est là et il est tout à fait sain. Si je vais dans mes notes au point A, jouir de l'intimité physique, nous désirons naturellement l'intimité physique et sexuelle. Et ce livre nous instruit en ce sens. À trois reprises, l'auteur met en garde, une première leçon par rapport à la sexualité, il met en garde d'éveiller prématurément ces désirs-là. Alors, j'ai déjà une leçon par rapport à l'intimité sexuelle, tu peux réveiller ça trop tôt. Et il va y avoir des incidences à ça. À trois reprises, on est mis en garde. Fais attention de ne pas d'éveiller trop tôt les désirs de la sexualité, de l'intimité, de l'amour qui va conduire à cette intimité-là. Pourtant, le message de ce livre est que la sexualité est fondamentalement bonne et qu'elle est un don de Dieu. Alors ça vient constamment dans le texte. Je comprends que dans notre expérience, on peut dire « Non, Yannick, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Ça fait plus de mal que de bien. » D'accord? Maintenant, il y a plein de choses avec lesquelles que Dieu a créé qui étaient bonnes. Je vais vous en donner une très flagrante. Dieu a créé la notion d'autorité. La notion d'autorité, de laquelle découle l'ordre, c'est Dieu qui l'a conçu. D'accord? L'univers dans lequel on vit est ordonné. Dieu est lui-même autoritaire, dans le sens qu'il crée, il ordonne, il juge. Et donc, c'est un bon concept. On n'a pas été créé pour vivre dans un concept de... Je veux dire, même la démocratie repose sur un concept d'autorité. On fait juste choisir ensemble c'est qui les patrons, d'accord? Mais on n'est pas... On n'a pas été créé pour vivre dans un monde chaotique, où la règle d'excellence serait le chaos. D'accord? Il y en a qui sont, hein, c'est des anarchistes. Bon, mais les anarchistes disent non, il n'y a pas de principe d'ordre. D'accord? Non, Dieu a créé l'ordre. L'autorité est fondamentalement bonne. C'est quoi votre expérience avec l'autorité? Est-ce que c'est fondamentalement bon dans votre expérience personnelle? Probablement pour plusieurs d'entre vous, non. C'est une des pires affaires qui existent dans notre monde, parce qu'avec l'autorité, on fait énormément de mal. D'accord? Pourtant, c'est quelque chose de bon. Pardon? Les anarchistes, c'est ceux qui défendent une philosophie de la société qui veut le chaos, qui dit non, C'est complexe, là, le mouvement anarchique. Vous pouvez aller lire sur Wikipédia, c'est pas mal intéressant. Mais c'est ça, c'est qu'ils vont être contre un ordre à proprement dit démocratique où on va choisir, puis avec ordre, d'accord? Mais c'est en tout cas, c'est un courant, c'est un mouvement. C'est clair que personne ne veut fonctionner comme ça. Je veux dire, à part quelques hurluberlus, là, mais généralement, même eux, ils ont un chef qui est en train de diriger le mouvement, d'accord? Alors, l'autorité, c'est quelque chose de bon. L'autorité, c'est bon. Dans notre expérience personnelle, c'est souvent très mauvais. Parce qu'on a tous eu à subir des abus de tout ordre, d'accord? Placés sous quelqu'un qui abusait de l'autorité, que ce soit ton patron, des injustices, que ce soit n'importe quoi, d'accord? Avec la loi, avec tes parents, peu importe. On a tous subi des abus de l'autorité. Fondamentalement, c'est bon. C'est super important. Si fondamentalement, dans mon cœur, pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de mauvais, je vous dis pas là, que ça se règle en disant « c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Non, mais je dois reconnaître ce que les Écritures enseignent. La sexualité a été conçue par Dieu, elle est fondamentalement bonne. Après ça, on peut faire toutes sortes de choses avec qui peuvent être très mauvaises, d'accord? Alors, lorsque, par exemple, ceux qui ont un certain âge, vous avez connu cette époque où une bonne mère pouvait dire à sa fille, la veille de ses noces, « écoute, il va se passer des trucs, tout ça ». C'est un moment difficile à passer. Ça fait partie des devoirs conjugaux. Tu traverses ça, cette période-là, puis ça finit. Tu lui donnes ce que tu lui dois, puis ça finit là. D'accord? Et donc, puis là, c'est, entre guillemets, des bons chrétiens. D'accord? Mais c'est parce que, bon, ben, ça fait partie des douleurs de la vie. Bon. Bien des couples, même chrétiens, vont éventuellement se camper là. Dans la pratique, c'est ça qui se passe. D'accord? Parce que c'est pas adressé comme il faut, parce qu'on cherche pas à grandir là-dedans, parce qu'on veut pas faire face à tout ce que ça peut susciter comme peur de chercher à grandir dans notre sexualité. D'accord? Fondamentalement, c'est clair dans les Écritures, la sexualité est bonne. Le message du Cantique des Cantiques est très clair. Le livre est avant toute chose une célébration de l'intimité amoureuse et sexuelle dans le couple. Il nous invite à jouir de cette merveilleuse bénédiction. Alors, plusieurs passages, il y a des passages qui sont hyper explicites. D'accord? Qui sont même créatifs, si je peux dire. Le livre est clair là-dessus. Ça, c'est une des premières leçons à apprendre pour le couple. Avec deux volets, n'éveillez pas cela avant que ce soit le moment. Donc, c'est la leçon qu'on essaie d'enseigner à nos jeunes aussi. D'accord? Et puis, deuxièmement, c'est quelque chose qui est fondamentalement bon. Et le livre des Cantiques devrait servir d'inspiration pour les couples. Maintenant, ceci étant dit, ça demande de la grâce, ça demande beaucoup de douceur, ça demande beaucoup de charité. C'est un des endroits où il y a beaucoup de souffrance. Même dans les foyers chrétiens, il y a beaucoup de souffrance liée à la sexualité dans les couples chrétiens. D'accord? Entre autres, parce que tout ça est vécu très, très secrètement. Très seul, on n'est pas capable d'aller chercher des ressources. D'accord? Mais le standard biblique est clair et le modèle biblique est clair. Grandir dans l'intimité relationnelle. Je vais lire le paragraphe, puis après ça, je le commenterai. Ce livre nous présente la sexualité comme étant le fruit d'une relation amoureuse riche. Ainsi, nous nous devons de prendre conscience de la présence des mots qui véhiculent les sentiments amoureux. Le Cantique des Cantiques est un chant d'amour qui va bien au-delà d'une simple description de la sexualité. Voyez-vous, dans notre société, on a tendance à... De plus en plus, là, puis avec les nouvelles générations, c'est vraiment encore beaucoup plus fort. La sexualité devient un objet. C'est quelque chose qu'on observe de l'extérieur. Avec la pornographie, c'est observé de l'extérieur, littéralement. Et donc, progressivement, on en est venu à dire la sexualité humaine, c'est un phénomène psychologique qu'on peut analyser, un phénomène biologique, psychologique qu'on peut analyser. Et ça devient de plus en plus un objet qui est détaché, qui peut être détaché de la relation amoureuse. De l'intimité affective, relationnelle entre deux individus. Dans le Cantique des Cantiques, j'ai pas un manuel d'instruction sur la sexualité. D'accord? J'ai pas un traité d'érotisme ici. J'ai un traité sur l'amour. C'est ça que j'ai dans le Cantique des Cantiques. Et donc, une des choses que je dois voir de toute évidence dans le texte, c'est que si la sexualité est désirable et elle est bonne, elle est dans le cadre d'une relation d'un amour relationnel intense et un amour qui est exprimé. D'accord? Fait que par exemple, les gars qui sont super minables avec les mots, qui ne sont pas capables d'exprimer leur amour à leur épouse, mais qui veulent vivre la sexualité, mes amis, comme le Cantique des Cantiques, C'est parce que tu comprends-tu que ça, c'est décrit à travers des mots? Puis le gars, il l'a charmé, la fille, là, tu sais. Fait qu'elle sait bien avant que le gars soit là puis qu'il a un désir sexuel, elle sait déjà qu'il a un désir amoureux envers elle, qu'il veut une intimité, qu'il veut une relation. Le Cantique des Cantiques nous apprend que la sexualité ne peut pas être détachée d'un amour, d'une relation humaine. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Parce que c'est porté par des mots. Parce que c'est porté par des mots qui expriment l'amour. Et donc, dans ma relation avec mon épouse, dans ma relation avec mon épouse, c'est pour les dames, c'est, je dois entretenir cette relation-là. La sexualité va être la résultante de cette affaire-là. D'accord? Et ça, c'est évident dans le texte ici. Parce que c'est pas juste un objet, c'est pas juste une description biologique, c'est quelque chose qui est le fruit de l'amour. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ça? C'est bon? C'est ça, la dernière phrase ou l'avant-dernière phrase résume assez bien la pensée. La sexualité hors du contexte de l'amour perd son sens véritable. Et malheureusement, je pense qu'à l'égard de la sexualité, c'est le message le plus fort que notre culture lance. Le message que notre culture crie le plus fort, c'est sexe et amour, c'est deux choses. D'accord? Et si vous êtes un petit peu branché sur ce qui se passe avec les jeunes générations, chez eux, c'est de plus en plus évident. Sexualité et amour, c'est deux choses. J'étais en train d'écouter une télésérie avec mon épouse une semaine. Et puis, on assiste à une scène où, justement, il y en a deux qui se flirtent. Et puis, il y a des avances qui se font. Puis, la fille a dit, tu sais, moi, j'ai vécu des trucs, je suis pas trop pressé. Puis là, c'est un gars d'une quarantaine d'années qui fait juste répondre. Puis, pour lui, c'est une question de franchise. Il dit, tu sais, moi, je veux être franc. Pour moi, l'amour et la sexualité, c'est deux affaires. La fille a compris, elle dit, c'est beau, ça s'arrête là entre toi et moi, tu sais. Mais je veux dire, lui, ce qu'il cherchait, c'était ça. Là. Ça s'arrêtait là. Et je ne veux pas m'engager plus que ça. D'accord? C'est extrêmement présent dans toute la littérature. Ça fait longtemps que ça se prépare, toute cette révolution sexuelle-là. Le Cantique des Cantiques me dit que la sexualité, hors du contexte de l'amour, perd son sens véritable. D'accord? Et c'est une des choses qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est une des choses qu'on doit se répéter à nous-mêmes. La pornographie, c'est comme la consommation, tout ça. Où tu te dis, ben c'est ça, c'est l'autre bord d'une vitre, cette affaire-là. C'est l'autre, tu sais, c'est un objet, en fin de compte. La sexualité devient simplement un objet. Autre élément super intéressant, établir une identité. Nous pouvons observer dans le livre un troisième désir profond de l'être humain, et c'est celui d'une identité personnelle. À notre époque, l'homme, l'être humain en général, cherche à se définir dans son identité par lui-même à titre d'individu. D'accord? Nous vivons dans une société individualiste où chaque individu cherche à s'accomplir lui-même. Je dois savoir qui je suis avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Je dois savoir qui je suis avant de pouvoir entrer en relation avec le monde parce que ce qui est important, c'est que je sache qui je suis par moi-même. Dans les Écritures, dans la Bible, l'identité d'un individu n'est jamais seulement définie par rapport à lui-même. Par exemple, qui je suis comme être humain, Jean Calvin va dire, tu veux savoir qui tu es comme homme, commence par découvrir Dieu. Regarde qui est Dieu, après tu vas pouvoir te découvrir comme il faut. Découvre que Dieu est saint, que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est amour. Là, tu vas regarder à toi, tu vas dire, dans tous ces éléments-là, je ressemble à Dieu quand je fais ça, et dans tous ces éléments-là, c'est clair, je suis pas Dieu parce que j'y arrive pas du tout. Là, je commence à comprendre qui je suis, je commence à comprendre que l'univers est pas centré sur moi, est centré sur un être saint, infini, bon. Donc, selon les Écritures, pour définir mon identité, ça va se faire par rapport à Dieu. Ça va se faire aussi par rapport à l'Église, dans mes relations avec les frères et sœurs, d'accord? Et dans le Cantique des Cantiques, un des éléments qu'on voit, c'est que mon identité se définit à ceux que Dieu appelle au mariage, se définit aussi dans cette nouvelle relation-là. Alors, je ne perds pas mon individualité, mais en même temps, comme Gérard l'a cité tout à l'heure, je deviens une seule chair avec mon épouse. Et il y a une nouvelle identité qui est en train de se créer là. Ça aussi, c'est contre-culturel. Parce que c'est très, très important à notre société, à notre époque, aux yeux de notre société, que tu ne te perdes pas dans l'amour. Reste toi-même, sois toi-même, puis perds jamais ça. D'accord? On comprend qu'il y a certaines relations amoureuses où il y a un individu qui, la relation devient complètement débalancée. Dans un langage biblique, on va dire que tu fais de ton conjoint une idole dans ta vie, qui vient prendre la place de Dieu. Puis toi, tu disparais complètement. Tu es juste là pour répondre à tous ses désirs. Il appelle ça de la codépendance, d'accord? Dans le langage psychologique. Alors, on comprend que ça peut être débalancé. Mais en même temps, clairement, selon les Écritures, lorsque j'entre dans le mariage, je décide de me donner pour l'autre. Et donc, ce que je suis comme individu, je veux dire, le jour où je me suis marié, j'étais encore Yannick Etier, mais je suis devenu l'époux d'Esther. D'accord? Et ça a un impact sur plein d'affaires. C'est ça que je cherche. Je cherche à créer une nouvelle identité qui n'est plus seulement la mienne, mais qui est la nôtre maintenant. D'accord? Et ça, c'est présent dans le texte. Par exemple, lorsqu'on s'en va dans Cantique des Cantiques, 6:3, chapitre 6, verset 3, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » 7:11, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » On trouve cette idée qu'ils deviennent une seule chair. Et je deviens, et ça peut vraiment être mal utilisé, mais je deviens, j'appartiens à l'autre et l'autre m'appartient. D'accord? C'est bon, c'est sain comme ça. On est tout de suite capable d'imaginer comment ça peut être malsain. Parce que je vais chercher à contrôler l'autre au lieu de servir, d'accord? C'est la nature humaine, c'est le propre de l'être humain à cause du péché de dénaturer, de briser ce qu'il y a de bon que Dieu a créé. Mais cette idée-là que je ne m'appartiens plus et que j'appartiens à Esther et qu'Esther m'appartient, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce qu'on est en train de bâtir ensemble quelque chose. J'ai encore là une nouvelle identité. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ou ça sonne comme pas bon? Allez-y si vous avez 2-3 questions. Si je comprends bien ta question, tu es en train de dire, est-ce que le Cantique des Cantiques nous montre qu'on doit s'unir à une femme? Vous êtes tellement poétiques, les Africains. Là. Voilà ta côte, c'est génial. Je te dirais qu'il aborde le sujet lorsqu'il dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » D'accord? Et donc, il y a un moment où je vais entrer dans cette union-là parce que j'ai été préparé pour ça. Et je comprends la relation vers laquelle je vais aller. S'il y a une notion de direction de Dieu vers celle qu'il veut pour moi, je ne crois pas que c'est présent dans ce texte-là, nulle part. Je ne pense pas qu'il y a d'allusion à ça dans le texte. C'est ça. Mais il y a définitivement l'idée que je pourrais le vivre mal, ça. Et je devrais attendre le temps où cet amour-là devient mature. Mais encore une fois, par exemple, le texte ne va pas me dire. Puis c'est ça que je pourrais essayer de chercher dans le Cantique des Cantiques. Il devient mature quand? Il devient mature quand tu es près de Dieu. Non, c'est pas dit là-dedans. Il devient mature quand tu es capable de faire vivre ton épouse. Non, c'est pas là-dedans. C'est quoi cette maturité-là où l'amour est prêt vraiment? C'est pas défini, là. On est vraiment dans l'amour passionnel. D'accord? On est vraiment là. Mais c'est clair que c'est, je suis dans une union avec une épouse et il y en a juste une, c'est elle. D'accord? Donc, cette idée d'identité-là, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair ou ce matin, vous n'avez pas trop de questions parce que je suis vraiment complètement mêlant? Ça peut être le cas, là. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Des fois, je suis très bon là-dedans. Non? Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée que dans le monde, la notion d'identité est centrée premièrement sur un individu, alors que dans les Écritures, la notion d'identité d'une personne se définit par rapport à sa relation avec plein d'agents extérieurs, Dieu premièrement, le corps de Christ, mon épouse. C'est comme ça qu'on définit notre identité. Et si j'essaie de définir mon identité uniquement en rapport avec moi-même, seul avec moi, il y a plein de richesses qui est l'être humain que je n'aurai pas, d'accord? Alors, quand je m'en vais dans le mariage, et malheureusement, je vous le dis, il y a des couples qui entrent dans le mariage aujourd'hui, des jeunes couples, où tu dis, ces deux personnes-là n'ont pas compris qu'ils s'en vont former une nouvelle identité. Ils l'ont pas compris. Ils sont tellement indépendants dans leur approche. Tellement, tellement indépendants. Ils s'engagent pas là-dedans en cherchant ensemble à construire pour Dieu. Ils s'en vont partager des choses. D'accord? Ils vont, pas des colocs, c'est plus que ça, mais ils ne s'en vont pas construire ensemble quelque chose. D'accord? Oui, Suzy. C'est un peu culturel, oui. Moi, si le mariage est arrangé, tu parles des mariages arrangés. Ouais. Ouais. Bon, on va faire juste une petite parenthèse puis on va adresser ça. D'accord? Admettons, où est-ce qu'on situe les mariages arrangés qui étaient très très communs à l'époque? Puis est-ce que l'amour est possible dans bien des pays? Dans bien des pays, mais même dans le contexte biblique à l'époque, il y avait énormément de mariages arrangés aussi. Donc comment est-ce que, où ça rentre cette histoire-là, de cet amour-là? Je crois que la manière que ces mariages-là sont préparés, comment est-ce que c'est vécu, dans bien des cas, ce serait possible qu'il y ait un amour profond entre les deux, d'accord? Parce que je vais laisser le temps pour que ça se passe avant de les unir dans la relation du mariage. Je crois que quand je me suis marié avec Esther, j'ai dit quelque chose d'odieux, d'accord? C'est pas vrai, c'est la vérité. C'était bon ce que j'ai dit, mais ça sonne dur. J'ai dit, Esther, je crois que bibliquement, je pourrais être heureux avec n'importe quelle femme si elle aime Dieu et que j'aime Dieu. D'accord? Mon épouse était à l'aise avec ça. Okay? J'ai pas fait peur, ça va. Maintenant, j'ai dit, c'est toi que je choisis. Puis toi, tu me choisis, puis ça, c'est génial. Mais ce qui va faire qu'on va être ensemble, heureux, c'est pas parce que je t'ai choisi puis tu m'as choisi. C'est parce que j'ai décidé de me donner pour toi et tu as décidé de te donner pour moi. D'accord? Fait que toute la question des mariages arrangés à l'avance, il y en a qui étaient super heureux comme mariage. Parce que les deux individus avaient le temps de se connaître, puis s'étaient préparés dans une relation où ils comprenaient qu'ils allaient se donner l'un pour l'autre. C'était pas, il n'y avait pas l'élément où ils disent, lui, je l'ai vu passer dans une foule, puis tu sais, le film s'est mis à ralentir. Puis, oh! Fait qu'il n'y avait pas toute cette affaire-là, je comprends, tu sais. Oui. C'est ça. Fait que le couple arrivait dans une relation où, tu sais, ils cherchaient à se donner l'un pour l'autre vraiment aussi, si c'était bien fait. Fait que c'est drôle parce que j'écoutais un film indien la semaine dernière. Puis c'est justement, il y a des contextes, vous avez peut-être vu des films sur des mariages arrangés en Inde, puis il y en a où tu vois que c'est génial. Mais vraiment, il y a une célébration de l'amour, il y a une préparation pour ça, puis ce qui est attendu, c'est l'opportunité de me donner à l'autre, tu sais. Puis il y en a d'autres où c'est abominable ce qui se passe, tu sais. Parce que la fille est mariée avec un gars qui, je veux dire, il ne sait pas c'est quoi l'amour, il est plus vieux, tout ce qu'il veut, c'est une petite jeune, puis bon, OK, on n'ira pas plus loin. Je dois aller vers la dernière leçon. Il me reste 4 minutes, je m'excuse. Mais c'est quand même super important. Je crois que le Cantique des Cantiques nous donne une autre leçon qui est importante, et c'est cette quête de sens. Je vais juste lire le paragraphe. De manière suprême, le livre du Cantique des Cantiques nous conduit aussi vers des questions plus fondamentales encore. En effet, au-delà de l'amour, la paix, la joie que procure la relation amoureuse que Dieu a conçue, cet amour pointe vers la question existentielle du sens de la vie. Si l'être humain peut trouver dans cette vie quelque chose de semblable, d'accord? Un amour semblable à celui qui est décrit là, ça pose des questions sur notre éternité. Ça pose des questions sur pourquoi est-ce qu'on est ici. Est-ce que je dois dans cette vie vivre quelque chose d'aussi beau que ça et que ça s'arrête là après? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et donc, dans ce sens-là, tout ce que Dieu a créé, là, je vais philosopher un petit peu à la John Piper, d'accord? Tout ce que Dieu a créé de bon sur la terre me parle de Dieu. Parce que quand j'ai soif de quelque chose, quand j'ai un appétit pour quelque chose et que je trouve que cela me rassasie, ça pose la question, est-ce qu'il y a plus que ça encore? Est-ce que je pourrais vivre ce... Tu sais, pensez là, quand vous avez très faim et il y a un mets succulent qui est placé devant vous. Vendredi soir, on a goûté des bonnes choses chez des amis, c'était incroyable. Puis j'avais pas dîné, d'accord? Fait que quand je suis arrivé à la table, c'était comme... Quand moi je dis ça, c'est un avant-goût du ciel, je suis pas en train de faire des blagues. Parce que je crois que Dieu l'a conçu pour que ce soit un avant-goût du ciel. Tout ce que Dieu a créé de bon, Dieu aurait pu rendre ça fade, sans aucune saveur. D'accord? Mais Dieu l'a créé parce que ça a du goût, avec du goût, parce que c'est en train de pointer vers quelque chose qui a encore plus de saveur et de goût que ça. Or, si c'est possible de vivre une relation intime semblable, qui te remplit, qui te comble, qui te donne de la joie, qui te donne de la paix, ou quand tu es avec, tu es comme pff, la terre, tu sais, l'univers, si je pouvais juste rester dans cet état de grâce-là éternellement, c'est complet pour moi. Et je veux dire, quand tu vis un bel amour, là, c'est ça que tu vis. Il y a des moments où tu dis, on peut-tu juste comme faire pause puis rester là? Le buzz, il continue comme ça. Éternellement. Le temps s'arrête juste là, tu sais. Mais justement, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là, puis je découvre que ça, finalement, c'est un avant-goût d'autre chose. D'accord? Qui, lui, va vraiment me combler éternellement. Et donc, dans ce sens-là, c'est en train de pointer vers Dieu. Lorsque je le place dans le contexte de l'ensemble des Écritures, mais clairement, les Écritures vont me dire dans Éphésiens, dans plein de textes, vont pointer vers cette union-là. Alors, oui, dans ce sens-là, le Cantique des Cantiques est une métaphore qui nous parle d'un plus grand mariage qui va être consommé dans notre relation avec Dieu. Et donc, ça soulève des questions existentielles. Pourquoi est-ce que l'être humain a été créé pour vivre des choses aussi intenses et belles que ça, si ça s'arrête là? Il n'a pas été créé pour vivre des choses aussi intenses et belles que ça et que ça s'arrête là. On est appelé à rentrer dans une autre relation qui va être encore plus belle, plus passionnelle, plus grande. Et là, à partir de ce moment-là, quand je saisis ça, je suis capable d'aller relire le Cantique des Cantiques puis lire toute la Bible. Je vais vous donner un exercice qui serait intéressant à faire. Si vous avez de la difficulté avec l'idée que Dieu est en amour avec vous, okay? Vous êtes toujours seulement capable de dire « Dieu est en amour avec son Église, mais il n'est pas en amour avec moi ». Lisez le Cantique des Cantiques, puis après ça, lisez toutes les Écritures. Cette année, là, si vous êtes en train de faire le plan de lecture de la Bible, dites-vous, chaque fois que je vais croiser un moment où Dieu exprime une passion amoureuse envers son peuple, voire même envers un individu, je prends note. D'accord? Quand vous allez avoir terminé de lire toutes les Écritures, vous allez pouvoir relire le Cantique des Cantiques puis dire, OK, c'est vrai. Les plus belles passions amoureuses qu'un être humain peut vivre sur la terre nous parlent en réalité de notre rapport avec Dieu et celui que Dieu veut avoir avec nous. Parce que dans les Écritures, on le retrouve à plusieurs reprises, cette idée-là. Je le soulignais dans le coaching cette semaine avec les gars. On était dans Jérémie, il y avait des versets qui étaient très, très clairs, qui parlaient de une passion intense que Dieu a pour son peuple, d'accord? Un amour qui est tout à fait comparable à cet amour-là. Alors, lorsque nous lisons ce poème de Salomon en pensant à ce que Christ a fait pour nous à la croix, nous réalisons à quel point l'amour de Christ est un amour que l'on ne peut saisir tellement il est grand. On découvre cette passion-là dans la croix. Comment est-ce qu'on l'appelle, la croix? Hein? On l'appelle la passion du Christ. D'accord? C'était un amour passionnel qui, pour pouvoir se rendre jusqu'au mariage, demandait que Roméo meure. D'accord? Et Roméo s'est livré à la mort pour pouvoir sauver sa Juliette. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, c'est vraiment un amour passionnel. Quelques applications, des questions de réflexion. Quelle est la meilleure manière de lire le livre du Cantique des Cantiques? Je vous invite à vous former une conviction sur ça. Si vous êtes marié, soyons créatifs un instant. Comment ce livre peut-il enrichir votre amour, votre relation amoureuse? Est-ce le monde en général ou la Bible qui nous présente la vision de la sexualité la plus riche? Moi, je crois personnellement, très, très clairement, que la sexualité juste pour la sexualité, c'est une sexualité qui n'est pas aussi bonne que la sexualité qui est vécue dans un cadre amoureux. Amoureux à vie, où je m'engage à découvrir l'autre toute ma vie. Et donc, je crois vraiment, profondément, que tout ce que le monde offre comme sexualité, c'est une pâle copie de ce que Dieu offre. Quelles sont les leçons principales que le Cantique des Cantiques nous enseigne sur l'amour et la sexualité? Je vous invite, pour les couples, à relire les leçons qu'on a tirées, à réfléchir sur ça. Qu'est-ce que ce livre nous apprend sur l'amour de Dieu pour nous, particulièrement dans cet amour manifesté en Jésus-Christ? C'est des sujets de réflexion. Au bas de la leçon, vous avez des chapitres que je vous encourage à lire pour la semaine prochaine dans le livre d'Ésaïe. Peut-être que vous n'avez pas le temps de lire les 60 et quelques chapitres d'Ésaïe cette semaine. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous n'avez pas le temps de le faire, je vous invite à lire ces chapitres-là simplement pour vous préparer pour la leçon de la semaine prochaine. Et je termine avec une dernière chose. J'aimerais ça, si vous pouvez venir signer la feuille de présence. On va le faire deux semaines au début de la session, puis on va le refaire juste à la fin de la session. Alors, je laisse ça ici à l'avant avec un crayon, puis si vous pouvez venir signer ça, j'apprécierais. Merci.